Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on sait qu'il y a un projet de loi qui a été déposé à Québec pour encadrer ce qu'on appelle les interpellations policières, le profilage également, puis aussi il y a un volet qui donne plus de pouvoir aux policiers en cas de disparition pour aller chercher de l'information pour localiser la personne. Alors, est-ce que c'était nécessaire d'aller avec des mesures, disons, plus sévères concernant les interpellations policières? Nathalie.
Ben, Paul, la question se pose. D'ailleurs, je me demande pourquoi le ministre de la Sécurité publique a déposé maintenant un volet concernant les interpellations policières dans son projet de loi, étant entendu qu'il a lui-même porté en appel une décision importante rendue par le juge Michel Hiergeau en octobre dernier. Décision marquante parce qu'elle est venue mettre fin aux interpellations policières aléatoires. Et il a dit, le juge, écoutez, pour sur ce type d'interpellation, parce qu'il y a beaucoup de profilage racial, il faut que ça cesse. Alors, lui, il a jeté le bébé avec l'eau du bain, littéralement. Et là, le gouvernement a levé la main pour dire que ça n'a aucun bon sens. Les interpellations policières dites aléatoires demeurent un outil de travail pour les policiers. Donc, le gouvernement a décidé de porter cette décision en appel. Là, on ne sait pas à quel moment la cour d'appel, elle, va statuer sur le dossier. Fait que je me demande pourquoi le ministre n'a pas attendu la décision de la cour d'appel. Mais lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que ce que le ministre de la Sécurité publique veut faire, c'est de créer un outil où il se donne les moyens, plutôt, je vais dire ça comme ça, pour imposer des sanctions dans les cas où des policiers seraient reconnus fautifs, c'est-à-dire des policiers qui auraient commis du profilage racial pour être sanctionnés. Remarque, au moment où on se parle, il y a beaucoup de questions, plus que de réponses. Et également, il va imposer une nouvelle obligation au corps de police, celle de livrer, de transmettre le 1er avril de chaque année la liste de toutes les interpellations qui auront été faites dans une année. Et cette liste devra être non seulement transmise au ministre, mais elle devra faire état du type d'interpellation qui a été fait. Ça, j'avoue que ça sera peut-être pas évident, parce que juste à Laval, par exemple, en 2021, il y a eu 1300 interpellations, imaginez, ou interceptions. Alors, le ministre aurait peut-être pu simplement demander aux différents corps de police d'adopter une politique sur les interpellations policières, comme l'a fait le SPVM le 8 juillet dernier. Mais pour ça, plutôt que faire ça, il a utilisé l'artillerie l'autre, c'est-à-dire une loi qui est quand même le moyen ultime pour un gouvernement de s'exprimer.
Plusieurs choses à dire. D'abord, moi, l'appel de la décision d'Hiergeau, là, Hiergeau, il est reconnu pour le juge Hiergeau pour rédiger de façon impeccable ses jugements. J'ai bien l'impression qu'il n'y aura pas d'appel. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais c'est quelqu'un
170 pages, Luc, la décision du juge Hiergeau.
Ah oui, mais tu sais, c'est un minutieux. Là. C'est un gars qui est connu pour travailler énormément ses jugements. C'est la première chose. La deuxième chose, donc, ça se pourrait que le projet de loi qui vient d'être déposé soit caduc. La deuxième chose, je suis bien d'accord avec Nathalie, de forcer les corps de police à adopter une politique aurait été bien plus valable, parce que bien entendu que les rapports vont arriver au bureau du ministre, puis ils vont tous être parfaits, là. Parce que pour faire des rapports, pour faire les statistiques, tu as besoin de recueillir les données au niveau du terrain. Donc, au niveau du terrain, tu vas te rendre compte que, oui, il y a eu de l'interpellation. Et là, tu vas devoir la justifier, mais si tu as des policiers qui en font plus, des équipes de nuit qui en font plus, etc., tu vas corriger les choses avant que ça se rende au bureau du ministre. Là, ils vont rééquilibrer. Et donc, le ministre va recevoir des rapports où tout va sembler bien aller dans l'ensemble des régions. Ceci étant dit, l'idée d'avoir des statistiques est bonne, par exemple. Parce que quand tu parles au commandant de police, ils disent, attends, là, moi, j'ai 200 gars, c'est tout le temps les trois mêmes qui font les interpellations, qui en font plus que la moyenne, etc. C'est ces trois gars-là que je veux rencontrer puis avec qui je veux discuter. C'est pas les 200. Les 200 font pas d'interpellations. Moi, ceci étant dit, là, il y a deux affaires dans ce dossier-là qu'il faut clarifier. La première, puis Paul Brochet de l'Association des directeurs de police du Québec l'avait bien dit, Surtout, enlevez pas le droit d'interpellation. Surtout, faites pas ça. Parce que, oui, il y a un bruit dans la région de Montréal, puis énorme et justifié, parce que t'as l'essentiel des communautés racisées sont ici, là. Au Québec, la façon dont c'est divisé, c'est que t'as 85% du Québec où il y en a pas, puis 85% où ils sont des communautés qui sont à Montréal. T'es dans le bout du lac Saint-Jean. Puis il y a chez Au Coin Transformation de Civic Automatique, transformation de véhicules. Le gars sort de là avec son Civic monté. Oui, tu veux une interpellation aléatoire. Oui. À 3h du matin, à la sortie du bar de danseuse à Rouyn-Noranda, oui, tu veux des interpellations obligatoires.
Je vais te raconter une anecdote. Quand on a fait le film Dérapage,
ouais.
On ciblait des jeunes conducteurs, OK? Puis on a fait un tournage à Québec. Puis, il y a une espèce de véhicule, tu sais, genre le véhicule pas mal modifié, dont le système de son et la valeur est plus élevée que l'auto elle-même.
C'est ça, oui.
OK? Puis, c'était aléatoire, là. On a intercepté, on le voyait passer, puis on allait le chercher. Là, les policiers allaient le chercher, puis vérifiaient la mécanique du véhicule. Il y avait pas de raison particulière, mis à part l'allure. Fait que si t'enlèves ça aux policiers, il veut dire...
Ça aurait des outils de travail, premièrement.
Ils vont répondre aux appels, point final.
Ben voilà, conduite en état de d'ébriété, d'une part. D'autre part, validité du permis. Troisièmement, vérifier les conditions. Est-ce que le gars avait des conditions de ne pas se tenir avec tel autre gars, etc. Et j'ajouterais, tu vois deux jeunes dans une BMW à 3h du matin, les vitres teintées, le gros char sport... Ça, c'est à Rivière-des-Prairies. Sais-tu qui va te demander qu'il y ait des interpellations aléatoires? La population noire de Rivière-des-Prairies et de Montréal-Nord, qui sont tannés de voir des jeunes faire la loi et l'ordre. Donc, bien entendu que tu vas pas que le ministre Carman puis tout le 90% de la population, 99% de la population racisée du Québec se fasse arrêter pour rien là, et qui sont dans leurs droits, qui sont des travailleurs, des pères et des mères de famille, des jeunes qui vont à l'école et d'ailleurs qui sont très dans des parcours où ils sont sévères avec eux-mêmes, sévères avec leurs enfants, puis dans le bon droit et dans le bon chemin. Bien entendu que tu veux pas que ces gens-là se fassent arrêter, mais tu veux pas enlever l'outil de interpellation obligatoire.
Nathalie. En fait, à ton micro, Paul, le 27 octobre dernier, M. Brochet, qui est aussi le chef de police à Laval, a affirmé que 45% des armes à feu saisies sur le territoire de Laval l'ont été grâce à des interceptions, grâce à des interpellations. Alors, clairement, je pense que ce matin, on a fait la démonstration que les interpellations sont nécessaires. C'est un outil de paix sociale, de préservation de la sécurité publique. Mais là où on s'entend tous au Québec, c'est que le profilage racial doit cesser. Et d'ailleurs, je réécoutais la conférence de presse de l'ex-chef de police de Montréal, M. Pigeon, qui parlait d'un changement culturel avec l'adoption de cette première politique sur les interpellations policières en juillet 2020.
M. Pigeon, c'est à Québec, je pense, non?
Pas Pigeon, t'as raison, c'est Sylvain, comment il s'appelle?
Caron.
Caron, oui. Pigeon, monsieur, c'est à Québec, absolument. Donc, monsieur Caron, Sylvain Caron, et puis c'est une politique qui a fait l'objet de nombreuses consultations, le 160 groupes, organismes, et ça fait des années que le service de police de la Ville de Montréal travaille à changer ses habitudes. Maintenant, c'est pas simple de le faire. Pourquoi? Parce que l'ex-chef Caron a admis qu'il y avait des billets de la part de certains policiers. Mais donc la ligne souvent est pas toujours simple. Maintenant, lorsqu'on attend, c'est depuis l'adoption de cette politique, quels ont été les résultats? Presque 3 ans plus tard, moi je pense que le SPVM pourrait peut-être nous faire part avec le nouveau chef qui est en place les résultats de la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Parce que t'en penses, Luc, mais
absolument.
Ça pourrait être intéressant.
Il y a eu un changement de cap par rapport au ministère même. En 2020, le rapport qui avait été remis. Ça disait que ça proposait l'interdiction des interpellations aléatoires. Et là, ils ont changé de cap suite aux consultations des groupes de police. Donc, je trouve que le travail a été fait, il a été bien fait. Maintenant, on attend la décision de l'appel, de la cour d'appel.
On s'arrête pour la pause. Pour retour, on va parler du financement pour les élèves en difficulté.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, faut parler du financement pour les élèves en difficulté. Ce sont souvent des calculs difficiles à faire, pas toujours très, très équitables. Et là, il y a comme une espèce de report de la réforme. Est-ce que le moment est pas venu de se questionner sur la façon dont on donne les sommes d'argent pour aider ceux et celles qui en ont besoin?
Moi, je pense que la base de tout ce problème-là, là, c'est pas écrit nulle part, mais c'est mon hypothèse, c'est que c'est un problème d'argent. Là, c'est pas un problème de la meilleure méthode pour faire le partage de l'argent. C'est un problème d'argent parce que le nombre de rapports, dont le rapport Élève avant tout, qui est sorti en 2022, est impressionnant sur les élèves en difficulté. On sait tout de ce qu'il faut faire. Il y a un consensus sur ce qu'il faut faire. Si on le fait pas, c'est parce que les sommes en cause sont énormes. C'est un élève sur quatre maintenant qui est en difficulté. C'est deux fois plus qu'il y a 25 ans. Moi, ce bout-là, je comprends pas.
Moi non plus. Pour être bien franc, là, est-ce que c'est parce que les autres ont passé sous le radar pis on le voyait pas? Ou c'est parce que ils ont plus de problèmes qu'avant?
Les téléphones. Je sais pas, mais en tout cas, c'est énorme, 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 énorme. Et les problèmes, là, regarde, je vais lire la liste des problèmes pour que les gens comprennent que ça veut pas juste dire élève en difficulté. Le nombre et la complexité des mesures des plans d'intervention. Donc, chaque élève en difficulté n'a pas le même plan d'intervention. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu as des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation qui sont insérés dans les classes. Troisièmement, les élèves qui sont en non-redoublement, c'est-à-dire ils n'ont pas redoublé, mais ils auraient dû redoubler, mais on les pousse vers le haut parce qu'on se dit un jour, ça va se régler. Tu as les élèves allophones qui ont jamais été dans une classe d'accueil parce qu'il n'y a pas de classe d'accueil, puis qui ont une maîtrise du français qui est totalement insuffisante à comprendre non seulement le français, mais l'ensemble des matières. Les élèves qui ont un problème grave de comportement, les élèves qui ont un problème du spectre de l'autisme, les élèves ayant un problème psychopathologique, les élèves en modification, donc des plans d'intervention qui ont fonctionné, mais qui ont été interrompus, puis il faut les reprendre, puis il faut les amener quelque part. Puis il y a toute la mise en œuvre et le suivi des plans d'intervention, parce que tu vas rencontrer la psychoéducatrice ou l'orthopédagogue, il y a un plan d'intervention, puis ça va prendre, t'as pas les ressources pour l'implanter, donc il est gelé. C'est ça, là. C'est tout ça qui fait la lourdeur d'une classe. Alors, évidemment que, et comme il y a une augmentation du nombre, ben, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources et d'argent. La composition des classes. Il y a un autre rapport qui a été déposé, le rapport Ménard en 2020, qui dit, la première chose à faire, c'est de dire, parce que des fois, ils en ramassent 50% de devs en difficulté dans une classe, puis pas dans l'autre. Alors, d'avoir une discussion au niveau de l'école en disant comment on va répartir les élèves en difficulté. Ça, c'est une première piste de solution. Augmenter les ressources en orthopédagogie et en soutien des mesures. Augmenter le nombre de classes d'accueil. Regarde avec les asiles politiques. Là, mettons qu'il y a eu 40 000 personnes qui sont passées par Roxham. Là-dessus, mettons que tu as 1 000 enfants. 1 000 enfants divisé par 30, c'est 30 classes de plus. On a-tu eu 30 classes de plus? Le nombre de classes doit augmenter aussi. Puis établir des diagnostics de façon souple. Parce que une fois que tu as le diagnostic, tu es embarqué dans une affaire, puis tu peux pas en sortir, puis le diagnostic devrait évoluer avec l'enfant. Donc, le nombre de solutions et le nombre de problèmes, on les connaît. Alors, arrivez-vous en nous disant, mais on va refaire d'autres projets pilotes, là, on les connaît.
Ouais. Nathalie.
Mais Luc, si on part de ton hypothèse à ce moment-là, que le problème, c'est un problème d'argent, de crédit, le bug, je vais pas dire ça comme ça, le problème, donc, viendrait du Conseil du Trésor. Parce que cette réforme, elle était promise pour 2018, on est en 2023, et 5 ans plus tard, là, le ministre doit nous dire pourquoi, où sont les écueils, les obstacles, qu'est-ce qui achoppe, pourquoi c'est difficile. Et l'enjeu est majeur. Hein? Vous parlez d'un élève sur quatre, il y a plusieurs données qui confirment que la situation va... En fait, c'est peut-être, on va peut-être se retrouver avec un élève sur deux dans un futur pas si lointain qui est considéré à besoins particuliers. Là, on parle d'élèves handicapés, en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Tu l'as dit, Luc, chaque élève a besoin de son plan d'intervention. Les enfants souffrent actuellement. Les parents sont sous pression et souffrent également. La famille souvent est chamboulée par un jeune qui a de la difficulté à l'école. Les enseignants réclament de l'aide. Alors, tu dis, là, on est dans un contexte explosif et la nouvelle que nous confirme le ministère, c'est on va reporter la réforme. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le silence du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. On n'a pas entendu le ministre justifier le report de sa réforme. Et moi, j'espère qu'on n'attendra pas la fin du présent mandat pour nous dire où est-ce qu'on s'en va. Mais en attendant, je pense que le ministère pourrait poser un certain nombre de gestes. Par exemple, interdire aux centres de services scolaires d'expulser des élèves dits en difficulté ou à besoins particuliers de leur école. Il y a plusieurs enfants actuellement qui sont scolarisés à la maison au grand dam de leurs parents. Ces enfants-là voient leur santé mentale et physique se détériorer. Les parents se disent victimes d'injustice, alors que ces enfants-là ont besoin d'être à l'école pour être socialisés.
Excuse-moi, Nathalie, mais moi, ce bout-là, je le comprends pas. Je le connaissais pas. Pourrais-tu me dire, c'est quoi? C'est pourquoi ils ont été renvoyés à la maison?
Ben moi, je connais, il y a des parents qui m'ont écrit pour me dire que c'est des enfants qui deviennent trop lourds à gérer, tu comprends?
Ah.
Et là, en fait, parce que c'est un cercle vicieux, Luc, parce que les enseignants souvent ne savent pas comment se comporter avec ces enfants-là. Ces enfants-là deviennent agressifs, deviennent violents. On les isole dans une classe à part, et là, ça dégénère, tu comprends? Mmh. Fait que là, à un moment donné, après plusieurs mois de ce genre d'attitude, on dit, ah ben cet enfant-là doit être scolarisé à la maison parce qu'on peut plus le garder ici, on peut plus le contrôler. Alors que si on prenait, tu comprends-tu, mmh. si on prenait le problème d'une autre façon, les choses peut-être se régleraient. Puis il faut se rappeler que la loi sur l'instruction publique oblige les enfants à être à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. L'autre chose, on pourrait interdire au personnel scolaire de mettre de la pression sur les parents pour que les enfants soient médicamentés. Combien de parents subissent de la pression, des enseignants qui ne sont absolument aucunement habilités, ils n'ont aucune connaissance de nature médicale pour dire aux parents, écoute, ton enfant, ton kid, là, ton enfant, il doit prendre des médicaments, sinon, écoute, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Ça, c'est une autre chose qui pourrait être faite. Et l'autre chose qui est importante, et j'en discutais avec une collègue de travail hier, si l'école de votre enfant vous oblige à obtenir un diagnostic, sachez que l'école a l'obligation de payer. Si l'école vous dit on n'a pas de ressources pour payer, ben il faut vous battre pour exiger que l'école paie tous les frais liés à l'obtention du diagnostic, parce qu'actuellement, combien de parents vont dans le privé et combien de parents n'ont pas les moyens de payer pour le diagnostic?
Mais c'est vrai pour la DPJ aussi. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de décisions, de rapports qui sont faits ou rendus qui prévoient des services, qui prévoient et il n'y a rien qui se fait. Et moi, j'ai vu des juges au tribunal de la jeunesse péter des coches en disant, écoutez, il y a 6 mois, je vous ai ordonné ça, puis il n'y a rien, il n'y a pas eu de suivi. Puis c'est aussi vrai dans les écoles, tu sais, on a un plan, OK, mais...
Puis souvent, il n'y a même pas les ressources pour le faire non plus, là.
Attendez, soyons constructifs ce matin. Qu'est-ce qui empêche les centres de services scolaires au Québec de créer des passerelles avec le secteur privé? Parce que là, la réponse facile, c'est de dire, on n'a pas les ressources. Les centres de services scolaires disent aux parents, organisez-vous avec vos troubles. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est obligatoire d'avoir un diagnostic. Le parent, bon, soit il sait pas trop où se lancer, puis quand il n'a pas les moyens, il se passe quoi? Alors, c'est la responsabilité du centre de service. S'ils exigent un diagnostic, ils ont l'obligation, j'insiste là-dessus, de payer puis s'organiser pour...
Je vais te raconter une anecdote. Ton ami Michel Courchesne, quand il était ministre de l'Éducation, je la reçois en entrevue. Oui. Puis là, j'ai dit, il y avait plein de parents, moi, qui me racontaient des trucs comme ça. J'ai dit, Madame Courchesne, si l'État détermine que mon enfant a besoin de tel ou tel service et que l'État ne peut pas me fournir le service, êtes-vous d'accord pour prendre la facture si je trouve les services ailleurs dans le privé?
OK. Puis, oui, c'est bon, ça aussi. Ouais.
Grand silence. Elle m'a dit, on va y penser. Mais ça ne s'est jamais fait.
Ça s'est jamais fait.
Jamais fait, parce que, bon, il y a toujours de raison, là, mais moi, c'est ça, mon principe. Puis c'est la même chose pour le réseau de la santé. Tu peux pas m'opérer, me trouver une place, puis tu vas payer. Parce que tu es supposé me donner le service.
Mais Paul, ton exemple est intéressant parce qu'on le fait déjà dans le privé. Les mini-hôpitaux privés, ça va être quoi? Bon, ben alors pourquoi ne pas transmettre cette même logique, utiliser cette même logique pour le secteur de l'éducation?
On va en parler à Bernard en temps et lieu.
Bernard. Mais tu sais que Bernard, là, si le ministre du Conseil du Trésor venait le voir et disait, gars, Bernard, j'ai parlé avec Éric Kerr, là, finalement, le 1,8 milliard qu'on était supposé d'envoyer, là, on va t'en donner 900 millions. Les chèques à la population, on va laisser faire les plus riches, puis on va te donner 900 millions. Je pense que sa réforme sortirait pas mal vite.
Peut-être.
Non, mais je me permets un commentaire rapidement. Oui. Là, la baisse d'impôts va toucher seulement 35 % des Québécois, nous dit l'IRIS. Pourquoi ça nous prend des baisses d'impôts? Je pense qu'on a d'autres priorités. Santé mentale, payer pour les diagnostics de nos enfants, il me semble qu'on a d'autres priorités.
Merci. On retrouve demain.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.